Florilège d'écrits de Baha'u'llah. Votre narrateur, Dominique Marchal. Préface. Le concept de révélation progressive, tel que Baha'u'llah l'expose, implique que pour un Bahaï, les Écritures saintes sont formées de l'ensemble des textes révélés par les fondateurs des grandes religions du passé. Ainsi, la Bible, le Coran, et dans la mesure où l'on peut les considérer comme authentiques, les textes fondateurs de l'hindouisme, du bouddhisme, du zoroastrisme, font partie du bagage religieux du Bahaï. En effet, échappant au double piège du syncrétisme et de l'éclectisme, la foi Bahaï accepte et intègre, dans une perspective historique, toutes les révélations du passé, se présentant elle-même comme une nouvelle effusion de l'esprit dans l'histoire du monde. En réponse aux promesses sacrées de Moïse, Bouddha, Jésus ou Mohammed, Baha'u'llah affirme inaugurer l'ère nouvelle de l'accomplissement, le royaume de Dieu sur la terre. La présente compilation offre des extraits de textes révélés par le fondateur de la foi bahaï. Dernier en date d'une longue lignée de messagers divins, Baha'u'llah, 1817-1892, connut le sort de ses prédécesseurs, incompréhension et persécution. Il vécut la plus grande partie de sa mission prophétique en exil et en prison, et termina sa vie terrestre en Terre Sainte, aux abords du Mont Carmel. Ces 40 années furent propices à une mise par écrit de son message. Pendant de longues périodes, l'écrit fut le seul lien possible entre lui et ses disciples. Ses textes révélés, innombrables, furent très tôt collectés et constituent un ensemble d'écrits authentiques, uniques dans l'histoire religieuse du monde. La présente compilation réunit des extraits de nombreux ouvrages de Baha'u'llah et constitue une première approche de son message. Les sujets abordés y sont variés et trop nombreux pour être tous cités ici, allant de l'unicité de Dieu à l'identité des messagers divins et à l'affirmation de l'unité de l'humanité. Le lecteur y trouvera ample matière à réflexion, découvrant des textes religieux compatibles avec notre époque et qui souvent la précèdent. Il y trouvera aussi les principes religieux, intellectuels, moraux et sociaux indispensable à une transformation de la société mondiale pour que l'évolution de notre planète ne soit plus synonyme de danger, d'instabilité et de tension, mais au contraire, source de développement, d'harmonie et de progrès pour l'être humain et pour la société. Il ressentira dans ces lignes le souffle puissant de l'Esprit divin inspirant, une fois encore, un de ces grands prophètes dont le message, créateur de nouvelles valeurs, fonde les civilisations. Au-delà de l'aspect essentiel, spirituel et religieux, abordé dans cet ouvrage, la communauté Bahaï travaille, de par le monde, à former une communauté humaine incarnant les principes sociaux révélés par Baha'u'llah, dans le but de les offrir en modèle à l'humanité. Car c'est à une transformation totale de l'individu et de la société que nous sommes appelés pour répondre aux défis de l'histoire. Pierre Spierkel. Chapitre 1. À Aka Muhammad Hassan. Loué et glorifié sois-tu, ô Seigneur, mon Dieu. Comment saurais-je parler de toi, alors que j'en suis convaincu? Il n'est point de langue, aussi profonde qu'en soit la sagesse, capable de magnifier dignement ton nom, ni de cœur qui puisse espérer s'envoler jusqu'au ciel de ta science et de ta majesté, si ardente que soit son aspiration vers toi. Si je te représente, ô mon Dieu, comme celui qui perçoit toutes choses, je me trouve contraint d'admettre que ceux qui sont les plus hautes incarnations de la perception ont été créés par la vertu de ton ordre. Et si je t'exalte comme celui qui est le très sage, je me vois aussi forcé de reconnaître que les sources mêmes de la sagesse furent engendrées par l'opération de ta volonté. Et si je proclame que tu es l'incomparable, je découvre bientôt que ceux qui sont la plus pure essence de l'unité furent envoyés par toi, et ne sont que les manifestations de ton œuvre. Et si je t'acclame comme l'omniscient, je dois confesser que ceux qui sont la quintessence du savoir ne sont eux-mêmes que la création et les instruments de ta providence. Exalté es-tu, immensément exalté, au-dessus des efforts de l'homme pour pénétrer ton mystère, décrire ta gloire, ou même faire allusion à la nature de ton essence. Car ces efforts, produits de ton décret et fruits de ton œuvre, ne peuvent, quoi qu'ils puissent accomplir, donner des résultats dépassant les limites que tu as assignées à tes créatures. Le sentiment le plus élevé que les plus saints parmi les saints peuvent exprimer pour te louer, la plus profonde sagesse que les plus savants des hommes exercent pour comprendre ta nature, gravitent toutes deux autour de ce centre entièrement soumis à ta souveraineté, qui adore ta beauté et que ta plume anime de son propre mouvement. Et Dieu me garde d'avoir prononcé des mots qui impliqueraient nécessairement l'existence de quelque lien direct entre la plume de ta révélation et l'essence des choses créées. Ceux qui te sont unis sont bien au-delà d'un tel concept. Ni comparaison, ni ressemblance ne rendent justice à l'arbre de ta révélation, et toute voie est barrée à la compréhension de la manifestation de toi-même et de l'aurore de ta beauté. Ce que l'homme peut affirmer de toi ou t'attribuer, et ses louanges par lesquelles il te glorifie, sont bien éloignés de ta gloire. Le devoir prescrit à tes serviteurs d'exalter à l'infini ta gloire et ta majesté est une preuve de ta grâce à leur endroit, afin de les rendre capables de s'élever à cet état de la connaissance de soi accordé à leur être intime. Nul autre que toi ne sondera jamais ton mystère, ni n'exaltera convenablement ta grandeur. Tu resteras à jamais impénétrable et très au-delà de la louange des hommes. Il n'est de Dieu que toi, l'inaccessible, l'omnipotent, l'omniscient, le Saint des Saints. Chapitre 2. Aux amis Bahá'í. Le commencement de toute chose est la connaissance de Dieu, et la fin de toute chose est la stricte observance de tout ce qui est envoyé de l'empiret de la volonté divine, animant tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Chapitre 3. À Oustad Muhammad Ali al-Samani. La révélation qui de temps immémorial a été acclamée comme le dessein et la promesse de tous les prophètes de Dieu, ainsi que le plus cher désir de ses messagers, est maintenant donnée aux hommes par la vertu de la volonté omniprésente du Tout-Puissant et sur son commandement irrésistible. Toutes les Écritures saintes ont annoncé l'avènement de cette révélation, et voyez comment, en dépit d'une telle annonce, l'humanité s'est écartée de son sentier et privée de sa gloire. Dis, ô vous, aimant du seul vrai Dieu, efforcez-vous de l'accepter, de le connaître et de garder ses préceptes. Telle est cette révélation que si un homme versait pour l'amour d'elle une goutte de son sang, des myriades d'océans seraient ses récompenses. Ô ami, veillez à ne pas perdre un bienfait si précieux et à n'en pas méconnaître le caractère sublime. Considérez la multitude de vies qui ont été sacrifiées et le sont encore dans un monde abusé par le spectre des vaines imaginations de ces peuples. Rendez grâce à Dieu d'avoir réalisé le désir de votre cœur et d'être uni à celui qui est la promesse de toutes les nations. Avec l'aide du seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire, préservez l'intégrité de l'état où vous êtes parvenu et attachez-vous fermement à tout ce qui peut servir sa cause. Il vous prescrit, en vérité, ce qui est juste et propre à exalter le rang de l'homme. Glorifié soit le miséricordieux, l'auteur de cette merveilleuse tablette. Chapitre 4. À Ghulam Hussein. Voici le jour où Dieu a prodigué aux hommes les plus précieuses faveurs, le jour où sa grâce puissante a imprégné toutes les choses créées. Il incombe à tous les peuples du monde de concilier leurs différends et de demeurer unis dans la paix la plus parfaite, à l'ombre de l'arbre de sa providence et de sa tendre bonté. Il leur faut s'attacher à tout ce qui peut, en ce jour, exalter leurs conditions et servir leurs véritables intérêts. Heureux ceux dont la plume glorieuse a rappelé le souvenir et béni ces hommes dont nous avons préféré taire les noms en vertu de notre impénétrable décret. Priez le seul vrai Dieu que sa grâce vous aide à accomplir ce qui est recevable à nos yeux. Bientôt, le présent ordre des choses sera révolu et un nouveau le remplacera. Certes, ton Seigneur dit la vérité, il connaît les choses cachées. Chapitre 5. À Jamal. Voici le jour où l'océan de la miséricorde de Dieu est manifesté aux hommes. Le jour où le soleil de sa tendre bonté répand sur eux son éclat. Le jour où les nuées de sa grâce abondante enveloppent l'humanité tout entière. L'heure est maintenant venue de réconforter les malheureux, de les ranimer au souffle de la brise vivifiante de l'amour et de la fraternité, et par les eaux vives de l'amitié et de la charité. Où qu'ils se réunissent, et quelles que soient les personnes présentes, les bien-aimés de Dieu doivent montrer dans leur attitude envers lui et dans leur façon de célébrer sa louange une humilité et une soumission telles que les atomes de la poussière foulés par leurs pieds attestent la profondeur de leur dévotion. Les propos de ces âmes saintes doivent être animés d'une telle force que ces mêmes atomes en viennent à vibrer sous leur influence. Elles doivent se conduire de telle sorte que la terre qu'elles piétinent ne puisse jamais leur dire « Je dois vous être préféré, car voyez avec quelle patience je supporte le fardeau que fait poser sur moi le laboureur. Je suis l'instrument qui sans cesse dispense à tous les êtres les bénédictions déposées en moi par celui qui est la source de toute grâce. Malgré l'honneur qui m'a été ainsi conféré et les innombrables preuves de ma richesse qui pourvoit aux besoins de toute la création, voyez le degré de mon humilité et avec quelle soumission je me laisse fouler par les pieds des hommes. Soyez indulgents et bienveillants, aimez-vous les uns les autres. S'il s'en trouve parmi vous qui soit incapable de saisir quelque vérité ou qui doivent faire effort pour la comprendre, entretenez-vous avec eux dans un esprit d'extrême bonté et de parfaite bonne grâce. Aidez-les à voir et à reconnaître la vérité sans vous estimer le moins du monde supérieur ou plus doué. En ce jour, le seul devoir de l'homme est d'obtenir la part du flot de grâce que Dieu lui destine. En conséquence, que personne ne s'attache à considérer la capacité du récipient. La part des uns peut tenir dans le creux de la main, celle des autres remplir une coupe ou même un tonneau. En ce jour, chacun doit chercher ce qui servira le mieux la cause de Dieu. Celui qui est l'éternelle vérité en répond pour moi. Absolument rien en ce jour ne peut nuire davantage à cette cause que la discorde, les dissensions, les disputes, la désaffection et l'apathie chez les aimés de Dieu. Par son pouvoir et sa grâce souveraine, évitez tout cela et efforcez-vous d'unir les cœurs des hommes en son nom, l'unificateur, l'omniscient, le très sage. Priez le seul vrai Dieu de vous permettre de goûter à la saveur des œuvres accomplies dans son chemin et de participer à la douceur de l'humilité et de la soumission consentie pour l'amour de lui. Oubliez-vous et tournez vos regards vers votre prochain. Tendez votre énergie vers ce qui sert l'éducation des hommes. Rien n'est et ne peut être caché à Dieu. Si vous suivez sa voie, ses bénédictions innombrables et impérissables pleuvront sur vous. Telle est la tablette lumineuse dont les versets coulent de la plume de celui qui est le Seigneur de tous les mondes. Méditez-la en votre cœur et soyez de ceux qui en observent les préceptes. Chapitre 6. À un inconnu. Voyez comme les divers peuples et fratries de la terre ont attendu la venue du promis de Dieu. Et pourtant, celui qui est le soleil de vérité, ne s'était pas plutôt manifesté que tous se sont détournés de lui, à l'exception de ceux qu'il plut à Dieu de guider. Nous n'osons en ce jour soulever le voile qui cache le rang sublime que tout vrai croyant peut atteindre, car la joie suscitée par cette révélation serait telle que quelques-uns en mourraient. Celui qui est le cœur et le centre du bâillon a écrit « Le germe où sont contenues les potentialités de la révélation à venir est doué d'une puissance supérieure aux forces combinées de tous ceux qui me suivent. » Et il a dit encore « De tous les hommages que j'ai rendus à celui qui doit venir après moi, le plus grand est cette déclaration écrite. Je ne trouve point de mots pour le décrire convenablement. Et rien de ce que j'ai dit de lui dans mon livre, le Bâillon, ne peut rendre justice à sa cause. Quiconque sonde les profondeurs des océans de sagesse cachés dans ses paroles exaltées et pénètre leur signification, perçoit une lueur de la gloire ineffable dont est dotée cette puissante, sublime et très sainte révélation. L'excellence d'une si grande révélation permet d'imaginer l'honneur qui ne manque pas de rejaillir sur ses fidèles disciples. Par la justice du seul vrai Dieu, le souffle même de ses âmes est à lui seul plus riche que tous les trésors de la terre. Heureux l'homme qui parvient à ce rang, et malheur aux négligents. Chapitre 7. Ajena bemerza sadik mushrif efar. En vérité, je vous le dis, voici le jour où l'humanité peut contempler le visage et entendre la voix du promis. L'appel de Dieu se fait entendre et la lumière de son visage se lève sur les hommes. Il convient à chacun d'effacer de la tablette de son cœur toute trace de vaines paroles et de considérer d'un esprit ouvert et exempt de préjugés les signes de sa révélation, les preuves de sa mission et les témoignages de sa gloire. Grand en vérité est ce jour. Les allusions qui font les saintes écritures en tant que jour de Dieu attestent sa grandeur. L'âme de chaque prophète de Dieu, de chaque messager divin a eu soif de ce jour merveilleux. Et tous les peuples de la terre ont aspiré à le vivre. Le soleil de sa révélation ne s'était pas plutôt manifesté dans le ciel de la volonté divine que tous, à l'exception de ceux qu'il plut au Tout-Puissant de guider, sont restés interdits et indifférents. Ô toi qui te souviens de moi, le plus épais des voiles prive de sa gloire les peuples de la terre et les empêche d'entendre son appel. Dieu veuille que la lumière de l'unité enveloppe la terre entière et que le sceau, le royaume est à Dieu, soit imprimé sur le front de ses habitants. Chapitre 8. Suratul Kami à Radarou et aux amis Bahaï. Par la justice de Dieu, voici les jours où Dieu met à l'épreuve les cœurs de l'ensemble de ses messagers et prophètes, et par-delà ceux qui veillent sur son sanctuaire inviolable, les hôtes de la tente céleste et du tabernacle de gloire. Terrible sera donc le châtiment de ceux qui donnent des associés à Dieu. Chapitre 9. À Hussein. Considère, ô Hussein, l'impatience avec laquelle certains peuples et nations ont attendu le retour de l'imam Hussein, dont la venue, après l'apparition du Caïm, a été prophétisée par les élus de Dieu, exaltée soit sa gloire. Ces âmes saintes ont annoncé de plus que tous les prophètes et messagers, y compris le Caïm, s'assembleront à l'ombre de l'étendard sacré levé par le promis, lorsque se manifestera celui qui est l'aube de la multitude des grâces divines. Cette heure est venue. Le monde est illuminé de la gloire resplendissante de son visage, et cependant voyez comme les peuples se sont écartés de son chemin. Personne n'a cru en lui, à l'exception de ceux qui, par la puissance du Seigneur des noms, ont brisé les idoles de leurs vaines imaginations et de leurs désirs corrompus, et sont entrés dans la cité de la certitude. En ce jour et en son nom, l'indépendant, le sceau est rompu qui scellait le vin choisi de sa révélation. Les effusions de sa grâce se déversent à flots sur les hommes. Emplis ta coupe et bois en son nom, le très saint, le magnifié. Chapitre 10. Au Bahaï du Khurasan. Le temps fixé de toute éternité pour les peuples et familles de la terre est aujourd'hui venu. Les promesses divines mentionnées dans les saintes écritures sont toutes accomplies. De Sion est sortie la loi de Dieu, et Jérusalem et ses collines, et la terre qui l'environne, sont remplies de la gloire de sa révélation. Heureux l'homme qui pèse en son cœur ce qui a été révélé dans les livres de Dieu, le secours, l'absolu. Méditez cela, ô bien-aimé de Dieu, et que votre oreille soit attentive à sa parole. Ainsi, par sa grâce et sa miséricorde, vous étancherez votre soif aux eaux cristallines de la fidélité et deviendrez aussi ferme et inébranlable en sa cause que la montagne. Il est écrit dans le livre d'Isaïe « Va dans les rochers, cache-toi dans la terre devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté. » Aucun homme méditant ce verset ne peut manquer de reconnaître la grandeur de cette cause ni mettre en doute le caractère de ce jour qui est le jour de Dieu lui-même. Le dit verset est suivi de ces mots, et seul le Seigneur sera exalté en ce jour. C'est en effet le jour glorifié par la plume du Très-Haut dans toutes les Écritures saintes. Pas un verset ne s'y trouve qui ne proclame la gloire de son saint nom, pas un livre qui ne témoigne de l'élévation de ce thème sublime. Si nous voulions mentionner tout ce qui est dit sur cette révélation dans les livres sacrés et les Écritures saintes, cette tablette prendrait d'impossibles dimensions. En ce jour, il incombe à tout homme de mettre sa confiance dans la multitude des bienfaits de Dieu et de se lever pour diffuser les vérités de sa cause avec la plus grande sagesse. Alors, mais alors seulement, la terre entière sera enveloppée de la lumière matinale de sa révélation. Chapitre 11. Tablette du Carmel. Gloire à ce jour, jour où les fragrances de la miséricorde sont répandues sur toute la création, jour béni et sans rival dans les âges et les siècles passés, jour où la face de l'Ancien des Jours s'est tournée vers son siège sacré. Alors, les voix de toutes choses créées et au-delà, celle de l'Assemblée céleste, lance cet appel. Hâte-toi, ô Carmel, car voici que se lève sur toi la lumière de la face de Dieu, le souverain du royaume des noms et le façonneur des cieux. Sur quoi, transporté de joie et élevant la voix, il s'écrie. Que ma vie te soit offerte en sacrifice, car tu as fixé sur moi ton regard, tu m'as accordé tes bienfaits et tu as dirigé vers moi tes pas. Je me consumais d'être séparé de toi, ô source de vie éternelle, et mon éloignement de ta présence avait réduit mon âme en cendres. Loué sois-tu pour m'avoir permis d'entendre ton appel, pour m'avoir honoré de tes pas et pour avoir ranimé mon âme du parfum vivifiant de ton jour et du son perçant de ta plume, son qui est, selon ta volonté, ton appel de trompette parmi ton peuple. Et lorsque sonna l'heure où devait être manifestée ta foi irrésistible, tu insufflas à ta plume un souffle de ton esprit, et voici, la création tout entière, ébranlée jusqu'en ses fondements, dévoile à l'humanité des mystères recelés dans les trésors de celui qui possède toute chose créée. Dès que sa voix atteignit ce lieu très exalté, nous répondîmes. Rends grâce à ton Seigneur, ô Carmel. Le feu de notre séparation te consumait rapidement lorsque l'océan de ma présence, s'enflant devant toi, vint réjouir tes yeux et ceux de toute la création et remplir d'allégresse toutes choses visibles et invisibles. Réjouis-toi, car en ce jour Dieu a établi son trône sur toi, a fait de toi l'orient de ses signes et l'aurore des preuves de sa révélation. Heureux celui qui gravite autour de toi, proclame la révélation de ta gloire et relate ce que la générosité du Seigneur ton Dieu a fait pleuvoir sur toi. Saisis le calice d'immortalité au nom de ton Seigneur, le très glorieux, et rends-lui grâce d'avoir, en gage de sa miséricorde, changé ta peine en allégresse, ton chagrin en béatitude. En vérité, il chérit ce lieu devenu le siège de sa puissance, foulé de ses pas, honoré de sa présence, d'où il a lancé son appel et sur lequel il a versé des larmes. Interpelle Sion, ô Carmel, et annonce la joyeuse nouvelle. Celui qui était caché aux yeux des mortels est venu. Sa souveraineté conquérante est manifeste. Son universelle splendeur est révélée. Prends garde d'hésiter ou de t'arrêter. Empresse-toi de circumambuler autour de la cité de Dieu descendue du ciel, la céleste Kaaba, autour de laquelle gravitaient les élus de Dieu, les cœurs purs et l'assemblée des anges les plus glorieux. Oh, comme j'ai hâte d'annoncer en chaque lieu de la terre et d'apporter à chacune de ces cités la bonne nouvelle de cette révélation qui charme le Sinaï et au nom de laquelle le buisson ardent proclame « C'est à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qu'appartiennent les royaumes du ciel et de la terre. » En vérité, voici le jour où la terre et la mer se réjouissent de cette déclaration. Jour pour lequel Dieu accumula ces choses destinées à être révélées par un effet de sa générosité inconcevable au cœur et à l'esprit humain. Avant peu, Dieu fera voguer son arche sur toi et manifestera le peuple de Baha mentionné dans le livre des noms. Sanctifié soit le Seigneur de l'humanité. La mention de son nom fait vibrer tous les atomes de la terre et incite la langue de grandeur à dévoiler ce qui est enfoui dans son savoir et dissimulé dans le trésor de sa puissance. Par la force de son nom, le Tout-Puissant, le Très-Haut, il est, en vérité, le souverain de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Chapitre 12. Ridvanul Adl à Seyyed Muhammad Rida Shamirzadeh. Ô peuple, éveillez-vous en prévision des jours de la justice divine, car voici venue l'heure promise. Craignez d'en méconnaître l'importance et d'être compté parmi les égarés. Chapitre 13. Kitab-e-Khan. Considérez le passé. Ils étaient nombreux, ceux qui, de toutes conditions et en tout temps, souhaitaient ardemment l'avènement des manifestations de Dieu en la personne sainte de ses élus. Ils attendaient sans cesse la venue de la beauté promise et priaient sans répit que le souffle de la miséricorde divine s'élève, que cette beauté sorte de sa retraite et qu'elle se révèle au monde entier. Mais chaque fois que se sont ouvertes les portes de la grâce, que les nuages de la munificence divine ont déversé leur pluie sur l'humanité et que la lumière de l'invisible a brillé à l'horizon du pouvoir céleste, tous l'ont renié et se sont détournés de sa face, la face de Dieu lui-même. Réfléchissez à ce qui peut motiver de semblables actions et provoquer une telle attitude envers ceux qui révèlent la beauté du très glorieux. Quelle que fût jadis la cause qui mena les gens au reniement et à l'opposition, elle induit aujourd'hui la perversité des gens de notre époque. Continuer à prétendre que le témoignage de la Providence fut incomplet et fut la cause du rejet des hommes est un pur blasphème. Rien ne serait plus éloigné de la grâce du très généreux, de son affectueuse Providence et de sa tendre miséricorde que de choisir l'un d'entre les hommes pour guider ses créatures, puis, d'une part, de lui refuser la pleine mesure de son divin témoignage, et d'autre part, d'infliger à son peuple un châtiment sévère pour s'être détourné de son élu. Au contraire, les multiples bienfaits du Seigneur de tous les êtres n'ont cessé de se répandre sur la terre et sur tout ce qui y demeure grâce aux manifestations de sa divine essence. Pas un instant, il ne retient sa grâce et les ondées de sa tendre bonté ne cessent de pleuvoir sur l'humanité. Une telle conduite ne peut être attribuée qu'à l'étroitesse d'esprit de ces âmes qui errent dans la vallée de l'arrogance et de l'orgueil, qui se perdent dans le désert de l'éloignement, suivent le chemin de leurs vaines imaginations et obéissent aux diktats de leur chef spirituel. Leur unique souci est de faire opposition, leur seul désir d'ignorer la vérité. Il est évident à tout observateur éclairé que si les gens à chaque époque des manifestations du soleil de vérité avaient purifié leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur de ce qu'ils avaient vu, entendu et ressenti, ils n'auraient certes pas été privés de contempler la beauté de Dieu et ne se seraient pas égarés loin des demeures de gloire. Parce qu'ils ont pesé le témoignage de Dieu à l'aune de leur propre savoir, glané des enseignements des chefs religieux, et qu'ils l'ont trouvé en désaccord avec leur interprétation limitée, ils ont perpétré ces actes si répréhensibles. Son temps révolu vint celui de Moïse. Armé de la verge du pouvoir céleste, fort de la blanche main du savoir divin, descendant du Paran de l'amour de Dieu, et brandissant le serpent de puissance et d'éternelle majesté, il rayonna sur le monde depuis le Sinaï de lumière. Il appela au royaume de l'éternité tous les peuples et fratries de la terre, et les invita à partager les fruits de l'arbre de la fidélité. Vous savez combien Pharaon et son peuple s'opposèrent violemment à lui, et combien de pierres de vaines imaginations les infidèles jetèrent sur cet arbre béni. Ils allèrent jusqu'à se lever pour éteindre de toute leur force le feu de cet arbre sacré sous les eaux du mensonge et du reniement, oubliant qu'aucune eau terrestre ne saurait étouffer les flammes de la sagesse divine, ni aucun souffle mortel éteindre la lampe de l'éternelle souveraineté. Au contraire, une telle eau ne peut qu'attiser la flamme. De tels souffles ne peuvent qu'entretenir la lampe si vous regardiez avec discernement et si vous marchiez sur le chemin de la sainte volonté et du bon plaisir de Dieu. Et lorsque le temps de Moïse fut passé et que la lumière de Jésus, de l'aurore de l'Esprit, brilla sur le monde, tout le peuple d'Israël se dressa contre lui. Ils prétendirent que celui que la Bible annonçait devait venir pour promouvoir et accomplir les lois de Moïse, alors que ce jeune Nazaréen, qui revendiquait le rang de Messie divin, avait abrogé les lois du divorce et du sabbat, les plus importantes des lois de Moïse. De plus, qu'en est-il des signes de la manifestation à venir? Ces gens d'Israël attendent encore aujourd'hui la manifestation prédite par la Bible. Combien de manifestations de sainteté, combien de révélateurs de la lumière éternelle sont apparus depuis le temps de Moïse? Et cependant, Israël, enveloppé des voiles les plus opaques de l'imagination satanique et des vaines chimères, attend toujours que l'idole créée de ses propres mains apparaisse avec les signes qu'il a lui-même conçus. Alors Dieu les a punis de leurs péchés, a éteint en eux l'esprit de la foi et les a tourmentés par les feux de l'enfer. Et cela pour la seule raison qu'Israël refusa de comprendre la signification des paroles de la Bible concernant les signes de la révélation à venir. Parce qu'il n'a jamais saisi leur véritable signification et qu'en apparence ces signes ne se sont pas produits, il s'est privé de reconnaître la beauté de Jésus et de contempler la face de Dieu. Et il attend toujours sa venue. Depuis les temps immémoriaux et jusqu'à ce jour, toutes les fratries et les peuples de la terre adhèrent à des pensées aussi vaines qu'inconvenantes et se privent ainsi des eaux claires jaillissant des sources de pureté et de sainteté. Pour ceux qui sont doués de compréhension, il est clair et manifeste que lorsque le feu de l'amour de Jésus eut consumé les voiles des limitations juives et que son autorité fut évidente et partiellement établie, lui, le révélateur de la beauté invisible, s'adressa un jour à ses disciples et fit allusion à son trépas, allumant dans leur cœur le feu de la séparation, il leur dit « Je m'en vais et je reviendrai vers vous. » Puis ailleurs « Je m'en vais et un autre viendra, qui vous dira ce que je ne vous ai pas dit et qui accomplira mes paroles. » Si, avec la clairvoyance divine, vous méditez sur les manifestations de l'unité de Dieu, ces deux phrases n'ont qu'une seule et même signification. Tout observateur éclairé reconnaîtra que la révélation du Coran confirme et le livre et la cause de Jésus. Pour ce qui est de la question des noms, Mohammed lui-même déclara « Je suis Jésus ». Il reconnut la véracité des signes, des prophéties et des paroles de Jésus, témoignant que tous venaient de Dieu. En ce sens, ni la personne de Jésus, ni ses écrits ne diffèrent de la personne de Muhammad et de son livre saint, dans la mesure où l'un et l'autre soutiennent la cause de Dieu, exaltent sa louange et révèlent ses commandements. C'est pourquoi Jésus lui-même déclara « Je m'en vais et je vous reviendrai ». Dénier considérait le soleil. S'il disait aujourd'hui « Je suis le soleil d'hier », il dirait la vérité. Et si, tenant compte de l'écoulement du temps, il prétendait être un autre soleil, ce serait toujours la vérité. De même, il est correct de dire que tous les jours ne sont qu'un seul et même jour, et tout aussi correct de dire qu'ils diffèrent si l'on considère leur nom particulier. Car, bien qu'ils soient identiques, on reconnaît chacun par une désignation distincte, un attribut spécifique, un caractère propre. Conçoit de la même manière les distinctions, les différences et l'unité qui caractérisent toutes les manifestations de sainteté. Tu comprendras ainsi les allusions que fait au mystère de la pluralité et de l'unité le Créateur de tous les noms et attributs, et en réponse à ta question, tu comprendras pourquoi cette beauté éternelle s'est donnée des noms et des titres divers selon les époques. Quand l'invisible, l'éternel, l'essence divine fit lever le soleil de Muhammad à l'horizon de la connaissance, les religieux juifs objectèrent, parmi d'autres ergoteries, qu'après Moïse, Dieu n'enverrait aucun autre prophète. Il est bien fait mention dans les Écritures d'une âme qui doit se manifester pour propager la foi et favoriser les intérêts du peuple et de Moïse, de telle sorte que la loi de la dispensation mosaïque embrasse le monde entier. C'est ainsi que le roi de gloire éternelle se réfère, dans son livre, aux paroles prononcées par ceux qui errent dans les vallées de l'éloignement et de l'erreur. Les Juifs disent « La main de Dieu est fermée, que leur propre main soit fermée, et qu'ils soient maudits à cause de leurs paroles. » Bien au contraire, les mains de Dieu sont largement ouvertes, et encore, la main de Dieu est posée sur leurs mains. Bien que les commentateurs du Coran aient diversement rapporté les circonstances accompagnant la révélation de ce verset, tâche cependant d'en saisir le sens. Il dit « C'est faux ce que les Juifs ont imaginé. La main de celui qui est en vérité le roi, qui a suscité la figure de Moïse et l'a revêtue de la tunique de prophétie, comment pourrait-elle être fermée et enchaînée ? Comment concevoir que Dieu soit impuissant à susciter après Moïse un autre messager ? Vois l'absurdité de leurs propos, comme ils s'écartent du chemin de la connaissance et de l'entendement. Et vois aussi comment, en ce jour, tous ces gens perdent leur temps avec de telles absurdités ridicules. Depuis plus de 1000 ans, ils vont répétant ce verset, critiquant inconsciemment les Juifs, sans se douter le moins du monde qu'ils professent en public et en privé les sentiments et les croyances du peuple juif. Tu connais sans doute la thèse vaine qu'ils soutiennent. Toute révélation est désormais close, les portes de la miséricorde divine se sont fermées. Plus jamais aucun soleil ne se lèvera à l'Orient d'éternelle sainteté. L'océan de grâce éternelle est à jamais étal, et du tabernacle de l'ancienne gloire, aucun messager de Dieu ne sera plus manifesté. Tel est le degré de compréhension de ces méprisables petits esprits. Ils ont imaginé que s'est tari le flot de la grâce universelle et de l'abondante miséricorde de Dieu, dont aucun esprit ne peut prévoir l'épuisement. Ils se sont levés de toutes parts, endossant le vêtement de la tyrannie, et s'efforcent d'étouffer la flamme du buisson ardent de Dieu sous les eaux amères de leurs vaines imaginations, oubliant que dans sa puissante forteresse, le globe du pouvoir protège la lampe de Dieu. Voyez comme aujourd'hui la souveraineté de Mohammed, le messager de Dieu, est apparente et manifeste parmi les gens. Vous savez bien quel fut le sort de sa foi au premier jour de sa dispensation. Terribles furent les souffrances infligées à cette essence de l'esprit, à cet être pur et saint, par les infidèles et les égarés, les religieux de son temps et leurs partisans. Nombreuses furent les épines, les ronces semées sur son chemin. De toute évidence, cette génération misérable, dans son imagination perfide et diabolique, tenait tout dommage infligé à cet être immortel pour un moyen d'atteindre à la félicité éternelle. En effet, les religieux reconnus de l'époque, tels que Abdullah Ibrahim, l'ermite Abu Hamir, Kab ibn Iyashraf et Nadr ibn Iyari, le traitèrent tous d'imposteurs, le déclarèrent fou et calomniateur. Telles furent les accusations portées contre lui, que Dieu, à leur récit, empêche l'encre de couler, notre plume de se mouvoir et la page de les recueillir. Ces perfides accusations incitèrent le peuple à se lever pour le tourmenter. Et plus cruel encore est ce tourment quand le clergé de l'époque en est le principal instigateur, qu'il le dénonce à ses disciples, le rejette de son sein et le déclare mécréant. N'est-ce pas ce qui est advenu aussi à ce serviteur, ce dont tous sont témoins? C'est ce qui explique ce cri de Mohammed. Aucun prophète de Dieu n'a souffert ce que nous avons enduré. Et le Coran relate toutes les calomnies et tous les reproches dont il fut l'objet, toutes les afflictions qui l'accablèrent. Reportez-vous-y pour savoir ce qui advint de sa révélation. Si sévère fut son sort, que pour un temps, tous cessèrent d'entretenir des relations avec lui ou avec ses compagnons, et quiconque le fréquentait fut victime de l'implacable cruauté de ses ennemis. Vois comme la situation a changé aujourd'hui. Vois combien de souverains plient le genou devant son nom, et combien de nations, combien de royaumes recherchent l'abri de son ombre, proclament leur allégeance à sa foi et s'en font gloire. Du haut des chairs s'élèvent aujourd'hui les paroles de louange qui, avec une humilité profonde, glorifie son nom béni, et du haut des minarets résonne l'appel invitant tout son peuple à l'adorer. Même les rois de la terre qui refusèrent d'embrasser sa foi et de se dépouiller du vêtement de l'incroyance confessent et proclament néanmoins la grandeur et la majesté souveraine de ce soleil de tendre bonté. Telle est sa souveraineté terrestre. Tu peux en voir les signes en tout lieu. C'est cette souveraineté qui doit être révélée et établie soit du vivant de chaque manifestation de Dieu, soit après son ascension vers sa demeure véritable dans les royaumes célestes. Il est évident que les changements apportés dans chaque dispensation forment les sombres nuages qui s'interposent entre l'œil de l'intelligence humaine et l'astre divin qui brille à l'orient de l'essence divine. Vois comme les hommes, depuis des générations, imitent aveuglément leur père, et sont éduqués selon les usages et les comportements établis par les préceptes de leur foi. Quand donc ils découvrent tout à coup qu'un homme, vivant parmi eux, leur égal dans les limites de la condition humaine, se lève pour abolir chaque principe traditionnel que leur foi leur impose, leur aveuglement les empêche évidemment de reconnaître sa vérité, d'autant plus qu'ils ont été, durant des siècles, entraînés à suivre ces principes et en sont arrivés à tenir pour infidèle, dépravé et mauvais celui qui les rejette. Voilà ce que sont les nuages qui voilent les yeux de ceux dont l'être intérieur n'a pas goûté au salsabille du détachement, ni bu les eaux du quatar de la connaissance de Dieu. Quand ils sont informés de ces faits, ces hommes sont si aveuglés que sans la moindre hésitation, ils déclarent infidèle et condamnent à mort la manifestation de Dieu. Comme tu le sais, pareille chose s'est produite à toute époque, et aujourd'hui encore tu en es témoin. Il nous incombe donc de déployer tous nos efforts afin qu'avec l'invisible assistance de Dieu, ces sombres voiles, ces nuages d'épreuves envoyés du ciel, ne nous empêchent de contempler la beauté de son visage resplendissant et que nous puissions le reconnaître uniquement par son soin.